Radio Scarpe Sensée. Élection municipale Douai 2020. Thierry Tesson, tête de liste Douai Capitale. Interview.
Monsieur Tesson, bonjour.
Bonjour.
45 minutes pour faire connaissance ici dans votre permanence à Douai et puis pour présenter votre programme pour le prochain mandat que vous briguez pour la municipalité de la ville de Douai. D'abord, quelques mots, monsieur Tesson, qui êtes-vous ?
Alors, je suis Thierry Tesson, j'ai 62 ans, j'habite Douai bientôt depuis 10 ans, je suis inspecteur d'académie, j'ai eu un certain nombre de responsabilités dans ma vie professionnelle, notamment dans les cabinets ministériels, etc. Enfin bon, une certaine expertise de pas mal de dossiers, mais surtout ce qui m'amène en fait dans cette élection, c'est d'abord d'être un citoyen, un habitant de la ville. Mes enfants sont scolarisés ici. J'y ajouterai d'ailleurs, parce que j'ai cru comprendre que c'était des éléments importants à Douai, c'est que mon épouse est d'origine douaisienne et sa grand-mère, par exemple, vendait des bonbons à Dorigny dans les années 40, 50, 60. Et je me suis plongé dans les recherches généalogiques la concernant et ça plonge effectivement dans le passé douaisien. Donc je veux dire que mes enfants, ils sont eux aussi un peu douaisiens, donc c'est peut-être aussi pour leur avenir et l'avenir de la ville que je m'intéresse effectivement à cette élection que je considère comme extrêmement importante. J'embraye tout de suite en disant que la liste s'appelle Douai Capitale, hein, c'est polysémique, ça a plusieurs sens, et les deux sens essentiels, c'est que cette élection est évidemment capitale, je le crois, pour en quelque sorte renverser la vapeur d'une évolution qui n'est pas une évolution positive, dont tout le monde peut constater les effets. Et le deuxième élément, c'est que Douai était la capitale de la Flandre wallonne avant la Révolution même. Et donc je considère qu'il faut redonner à cette ville son statut de capitale.
Cette liste, vous l'avez constituée comment et est-ce qu'elle a une couleur, cette liste ?
Bien sûr, elle a une couleur. Alors, vous savez, aujourd'hui, il y a tout un débat dans cet environnement électoral. Hein, aujourd'hui, il y a deux camps. Il y a le camp qui, surtout, a très, très peur de l'étiquette politique. Bon, ça peut se discuter. Et le camp qui considère que c'est une clarté. Je fais partie de ce groupe-là. Je pense qu'une clarté découle aussi des étiquetages politiques. En ce qui me concerne, je suis soutenu. Je ne suis pas investi. Hein, la nuance est importante. Je suis soutenu par le Parti des Républicains dont je suis membre, mais aussi l'UDI. Alors je m'empresse immédiatement de dire que cette liste est ouverte à toutes sortes de sensibilités, notamment ce qu'on appelle la société civile. Et quand nous dévoilerons notre liste, les observateurs remarqueront que certes, il y a des gens qui relèvent des Républicains, d'autres de l'UDI, mais aussi une large majorité de citoyens intéressés à l'avenir de la ville.
Déçu que des gens déjà investi sous ces étiquettes ne soit pas parmi votre équipe.
Ah, vous voulez dire des membres du passé LR et qui se seraient intégrés. Alors moi, je suis absolument pas certain que les électeurs s'intéressent à ces guéguerres picrocollines, comme dirait Rabelais. Franchement, je ne crois pas. Néanmoins, je crois à la clarté. C'est-à-dire que dès l'instant où on a des structures partisanes, dès l'instant où on a des règles, dès l'instant où on a une fédération, dès l'instant où on a une organisation politique, elle a évidemment des règles et il faut juste les respecter.
Vous êtes le seul candidat à avoir fusionné vos listes avec un autre candidat qui s'apprête également à briller. Monsieur Friedman, qu'est-ce qui vous a rapproché ?
On a une certaine communauté de vues. Hein. Je connaissais Jean-Luc Friedman avant le démarrage réellement de la campagne. C'est quelqu'un qui a beaucoup de points communs avec ce que nous essayons de défendre. Et moi, j'en étais ravi de cette, on va dire, fusion, en tout cas de cet accord avant le premier tour. Je dis toujours, alors, vous savez, moi, je suis un haut fonctionnaire de l'éducation nationale. Donc, moi, je suis plutôt issu de la fonction publique. Jean-Luc Friedman, c'est un entrepreneur. C'est quelqu'un qui crée de la richesse, je le dis toujours, qui crée de l'emploi. Et donc, je trouve extrêmement intéressant dans l'équilibre de notre liste qu'il nous ait rejoint. Je trouve que c'est réellement une richesse et on le constate depuis cette fusion tous les jours.
va aborder quelques points de votre programme. 45 minutes, c'est court. Vous évoquez le passé de Douai, du temps de l'industrie drapière, entre autres, hein, capitale des Flandres. L'attractivité de cette ville, elle passe par où prioritairement ?
Alors, on connaît tous, enfin, en tout cas, moi, je connais très bien, je le dis comme ça, sans aucune humilité, le passé. D'abord, parce que je suis un ancien professeur d'histoire. Évidemment, habitant à Douai, je me suis beaucoup, beaucoup intéressé à son histoire. Je suis d'ailleurs membre d'une société historique qui est très célèbre à Douai, qui s'appelle la SASA, la Société d'agriculture des arts et des sciences, qui est une très, très ancienne association, je vais le dire comme ça. C'est en fait une société qui date de la fin du XVIIIe siècle. Peu de villes peuvent s'enorgueillir d'avoir une institution de cet ordre. Donc, le passé de Douai, vous savez, il est complexe parce qu'il y a eu des grandes périodes, je vais dire des âges d'or qui se sont succédés, mais il y a aussi eu de très très grosses difficultés, y compris dans le passé. C'est-à-dire que cette ville a toujours eu une certaine fragilité. Je l'explique moi d'une manière très simple, c'est que les gens l'ignorent parfois, mais Douai s'est développé parce que peut-être le comte de Flandre vers l'an 1000 ou 1100 a fait ce qu'on appelle une piqûre sur la Sensée. Pour le coup, ça nous rapproche de votre radio, et à Vitry en Artois. Et on a pu alimenter le corps de la Scarpe avec de l'eau supplémentaire. Ça a créé les moulins, ça a créé la navigation et ça a créé la ville. Donc pour revenir sur l'attractivité, je pense que c'est une réalité forte. C'est-à-dire, bien entendu, on ne peut pas avoir une ville qui fonctionne si elle n'est pas attractive. Je pense qu'elle a les moyens de l'attractivité, cette ville. Vous savez, j'emploie souvent la métaphore du tourisme. Moi, il se trouve que j'ai enseigné la géographie régionale à l'université, j'ai fait un certain nombre d'études sur le développement touristique. Et le développement touristique a une chose extraordinaire, c'est que souvent, ça démarre par des gens qui découvrent dans des endroits spécifiques des sortes de valeurs et des intérêts que d'autres ne voient pas. Je donne toujours l'exemple de la Côte d'Azur. Vous savez qu'autrefois, on allait à la Côte d'Azur l'hiver. Et c'est le jour où les Anglais ont décidé d'y aller l'été que ça a changé la Côte d'Azur. Ils ont été capables, eux, de voir qu'à un moment où personne n'allait, en l'occurrence une période de l'année, c'était peut-être plus intéressant d'y aller à ce moment-là plutôt que d'y aller l'hiver. Je pense que Douai relève exactement de la même problématique, c'est-à-dire qu'il y a des fondamentaux extrêmement intéressants, je vous dirais le patrimoine, je vous dirais le positionnement, je vous dirais même l'offre, par exemple, scolaire de cette ville. On a du supérieur, on a des lycées, on a de très grands lycées avec de très très bons niveaux. Bref, on a un certain nombre d'éléments qui doivent absolument être repérés, qu'on en ait conscience, et ces éléments-là doivent être la base du renouveau douaisien.
Radio Scarpe Sensée, élection municipale Douai 2020. Thierry Tesson, tête de liste, Douai capitale. Interview.
Ça passe également par le dynamisme commercial de la ville et du cœur de ville.
Alors, le commerce, j'ai l'habitude de dire, là, on en pourra en parler avec Jean-Luc Friedman, qui connaît ça par cœur et comme un expert. Je dis toujours que ce n'est pas une cause, c'est une conséquence, le problème du commerce en ville. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'évidemment, il y a des éléments beaucoup plus larges, beaucoup plus macroéconomiques qui expliquent le déclin de la ville qui est réel. Hein. On a perdu énormément d'habitants. Si vous regardez le nombre d'habitants qu'on avait au début des années 60, des périodes de 50 000, on doit être à 37 000 aujourd'hui. On voit bien que ça, c'est quand même le révélateur d'une difficulté. Donc le commerce, c'est la conséquence, en quelque sorte, de tous ces éléments-là. Ça peut être aussi, on peut inverser la problématique, c'est ce que je disais tout à l'heure, sur le tourisme, ça peut être aussi le moyen du renouveau. On peut venir dans le centre de Douai parce que vous avez des commerces attractifs intéressants. On peut venir dans le centre-ville parce qu'il y a des endroits où on peut prendre un café, on peut trouver des lieux agréables. Et d'ailleurs, je crois que l'évolution actuelle du tourisme, de la vie urbaine, peut épouser ce renouveau qui peut être celui de Douai. Vous voyez, à travers des espaces qui sont des espaces intéressants, tout le monde cite le Furet du Nord à juste titre, c'est une vraie réussite. Quand j'y vais, il y a toujours du monde. Et donc, on peut imaginer que cette chalandise-là a une conséquence pour la ville.
Comment on fait, justement, pour le développer, pour le favoriser, pour le maintenir, ce commerce ?
Alors, on a fait, nous, des propositions dans le cadre de notre programme, puisque l'Union du commerce avait fait une sorte de speed dating des différentes listes. Alors, nous-mêmes, nous avions présenté ce que nous comptions faire pour le commerce. Moi, j'ai une règle très, très simple. Il faut donner aux commerçants le pouvoir de favoriser le commerce. Ça paraît presque une sorte de logique étrange, mais je la crois absolument vraie. Nous avons dans cette ville des commerces qui fonctionnent très bien. Nous avons dans cette ville des commerçants qui sont de véritables entrepreneurs à succès. Il faut leur donner la parole. Il y a une union du commerce. Moi, je milite pour qu'on invente un office municipal du commerce qui pourrait à terme devenir une société d'économie mixte locale, c'est-à-dire une sorte de bras armé, pas une association, quelque chose de beaucoup plus fort, qui est une sorte de semi-autonomie, on va le dire comme ça, et qui aura le pouvoir de, par exemple, définir un schéma directeur. Alors, qu'est-ce que j'entends par un schéma directeur de 5 à 10 ou 15 ans sur la totalité des quartiers de la ville, qu'on définisse quels sont les commerces qu'on doit avoir en ville? Vous voyez, il faudrait dire, est-ce qu'on a besoin de commerces de bouche? Est-ce qu'il faut du vêtement? Est-ce qu'il faut de l'accueil type restaurant, café? Vous voyez, il faut avoir une vision prospective et stratégique. Pour l'instant, ça n'existe pas. Après, cette société d'économie mixte pourrait être, par exemple, habilitée à choisir les candidats qui pourraient intégrer les cellules commerciales qui appartiennent à la ville. Et il y en a. Et il y a déjà eu des achats qui ont été faits. Donc, vous voyez, le fer de lance pour moi, c'est vraiment de donner la parole aux commerçants. Après, il y a d'autres choses à faire. Et vous êtes un spécialiste de Douai, je crois. Vous avez noté que le sujet, c'est la circulation automobile, premièrement. Et le deuxième sujet, c'est ce qui va avec le stationnement. Et quand on vient à Douai, qu'on ne connaît pas la ville, moi, j'ai l'habitude de dire, on a un plan de circulation complètement fou. Tout le monde s'en plaint. Depuis que j'habite bientôt presque 10 ans dans cette ville, je ne vois que des gens qui disent « c'est l'horreur, on ne peut pas circuler, c'est dingue ». Et personne n'y a jamais touché. Eh bien nous y toucherons. Nous allons mettre un certain nombre d'axes majeurs de cette ville en double sens. On va essayer de restaurer le principe du circuit. On va essayer vraiment de faire que dans cette ville, quand vous avez besoin de prendre votre voiture, moi je circule en vélo dans le centre-ville, hein, donc qu'on se dise pas « je dois partir à la direction inverse de l'endroit où je veux aller ».
On a justement besoin d'être véhiculé en automobile pour se déplacer dans le cœur de ville, ou alors la piétonnisation, c'est pas la bonne solution, la ville n'est pas dimensionnée, n'est pas structurée de façon à avoir une attractivité par la piétonnisation.
Alors, je parlais de causes et de conséquences, il suffit de se dire une chose terrible, un chiffre, 70% des achats des Français sont faits avec une voiture. Donc quand vous vous dites « on empêche toutes les voitures de rentrer dans le centre-ville », vous enlevez sur 100 personnes, 70 personnes qui pourraient venir dans la ville. Alors moi je ne dis pas qu'il faut absolument que cette ville soit traversée par des trois voies en plein centre, etc. Non, juste restaurer la possibilité de rentrer dans la ville avec son véhicule. Et je défends cette idée, je la défends absolument. Évidemment, il y a un corollaire, vous ne l'avez pas abordé, mais il va avec, c'est le problème du stationnement. Donc il est évident que là aussi, il faut agir sur le stationnement. Ici, vous avez un mal fou à vous stationner. Il y a énormément d'éléments qui peuvent permettre de répondre à cette question. Il y en a un qui est extraordinaire, ce sont des applications numériques. Il y a une ville comme Soissons qui a inventé ce principe. On met des capteurs sur la totalité des façades, capteurs qui sont d'ailleurs autonomes en termes d'énergie, pas besoin de tirer des fils. Et ça vous donne des places en temps réel sur l'application, les places vacantes, les gens qui restent trop longtemps. Parce qu'on a ce sujet-là aussi. Nous avons, avec les collègues de la liste, visité tous les commerces, par exemple du centre-ville. Les commerçants sont parfaitement conscients qu'il ne faut pas mettre sa voiture quand on est soi-même commerçant devant son magasin. C'est une réalité. Après, il y a des règles qu'on doit pouvoir adopter, qui sont les règles, par exemple, de la gratuité du samedi. Vous savez, Cambrai a adopté la gratuité, les chiffres semblent indiquer que ça a boosté le commerce le week-end de manière invraisemblable. Donc, on a des recettes très simples. Je suis même étonné, pour tout vous dire, qu'elle n'ait jamais été adoptée avant ces élections. Et là, le plus extraordinaire, on parlera peut-être tout à l'heure de l'environnement, moi, ce qui me fascine dans ces élections, et je m'en félicite, c'est du niveau de réflexion de l'ensemble des équipes en termes de programme, et surtout le fait que certaines problématiques se soient imposées. Et celle de remettre un peu la voiture et de remettre une circulation logique et de permettre aux gens de se garer, peut-être d'être un peu plus accueillants de ce point de vue-là, eh ben c'est en train de s'imposer. Après, bien sûr, je vous mets évidemment en contrepartie, ça ne veut pas dire qu'on va mettre que des bagnoles. Je pense qu'il y a aussi un sujet des parcours cyclistes. Moi, je suis cycliste dans la ville, hein. Il y a des endroits, c'est dangereux et c'est super mal fait, je le dis. Des trucs complètement aberrants où on fait des espèces de retours. Quand vous essayez d'aller sur la gare, par exemple, quand vous venez de Carnot à la gare, eh ben, bizarrement, si vous voulez respecter la piste cyclable, il faut partir vers la droite, tout derrière, etc. Ce que font les gens comme moi, on va tout droit, là, on passe devant Clémenceau, l'Indigo, et on va directement. Vous voyez, il y a des choses à faire sur le vélo, il y a des choses à faire sur le piéton, vous voyez. Quand on parle de la SCAR, par exemple, je ne comprends pas que ça soit aussi compliqué de se faire des bords de scarpe. Vous voyez, il faut qu'on réfléchisse à des modes de circulation. Donc, vous voyez, il y a plein de choses à faire. Et quand on me dit, mais la pollution, etc., ce sont des choses qu'on doit avoir en tête. Mais moi, je réponds toujours, comment on fera quand, par exemple, le parc automobile sera entièrement électrisé? Est-ce que là, on dira, il y a de la pollution? Alors oui, il y a de la pollution primaire. On sait tous ça, faire les batteries, etc. Et probablement que c'est d'ailleurs pas très très bon en bilan carbone. Mais néanmoins, en termes de pollution produite par la machine elle-même, il n'y en aura pas. Donc il faudra se poser cette question-là. En tout cas, nous, on a un plan déjà, hein. Mais ça sera aussi le moyen de travailler avec des experts de ces questions. Ça existe, hein, des experts de la mobilité, il faut les interroger. Parce que vous savez que la circulation automobile, c'est la mécanique des fluides. Si vous ne vous débrouillez pas bien, vous bloquez la ville. Donc il faut vraiment avoir ça en tête.
Thierry Tesson, tête de liste, Douai Capitale, juste après la pause musicale. Suite de cette interview dans le cadre de la campagne pour l'élection municipale à Douai, nous parlerons entre autres vie des quartiers, sécurité et propreté.
Radio.
Radio.
Radio. Scarp sens.
The night seems to fade, but the moonlight lingers on. There I wonder for everyone. Whoa. The stars shine so bright, but they're fading.
Radio Scarpe Sensée, élection municipale Douai 2020. Thierry Tesson, tête de liste, Douai Capitale. Interview.
Parler toujours dans le thème de la mobilité, Douai a cette spécificité d'avoir des quartiers éloignés, parfois très éloignés. Et si on prend Frémarais, voilà, avec la rocade qui sépare ce quartier de la ville, comment on fait également pour permettre cette mobilité des habitants vers le cœur de ville, ou alors est-ce qu'il faut développer in situ à Frémarais une offre suffisante pour que on ait une gestion de quartier?
Alors, évidemment les deux, ça je suis absolument conscient. Premièrement, il y a un vrai sujet, vous savez, nous faisons du porte-à-porte, hein, dans les quartiers périphériques, et c'est d'ailleurs l'obligation et l'honneur des candidats que d'aller à la rencontre des habitants. Lorsque vous allez à Frémarais, on est effaré de l'isolement des gens. C'est-à-dire, moi, j'ai une question, malheureusement, je donne le truc, mais je demande aux gens comment vous faites pour acheter votre pain, voyez. Et j'ai une dame qui m'a expliqué qu'elle prenait le bus pour aller chercher son pain. Et d'autres me disent, moi, j'ai pas de pain, j'essaye de me faire emmener par une voisine qui a une voiture, je congèle le pain. Enfin, vous voyez, des situations absolument incroyables. Donc, il y a deux réponses. Elles sont d'ailleurs dans votre question. La première réponse, c'est de travailler avec le CMTD pour que vraiment, on essaye de voir la fréquence des bus, vous voyez, y compris scolaires d'ailleurs, hein. On a rencontré, par exemple, une maman qui nous expliquait que son gamin est à Châtelet, donc route de Tournai, c'est Frémarais, hein, et qui lui arrive, et je trouve ça épouvantable, au gamin de faire à pied route de Tournai le collège Châtelet, parce que le bus qui passe pour les enfants est plein et il ne s'arrête pas. Donc là, il y a un vrai sujet de transport en commun, de liaison entre ce quartier qui est quand même très excentré et le centre-ville, ou alors les services publics qui se trouvent en centre-ville. Après, bien sûr, il y a la vraie question du commerce de proximité. Alors peut-être pas de disposer de tous les commerces dans ces quartiers, mais au moins ceux de première nécessité. Et on voit bien d'ailleurs que le fonctionnement de cette ville, c'est un vrai sujet, hein, peut-être que vous allez y revenir, mais l'union de la ville, c'est un élément dans ce travail de campagne dont je n'avais pas pris la dimension de manière aussi incroyable. Il y a un sujet d'union de la ville, et c'est peut-être d'ailleurs, au-delà même du problème économique, le sujet qui me paraît essentiel. C'est-à-dire que quand vous parlez avec les gens de Frémarais, quand ils peuvent, les courses, ils les font à Oisier, par exemple. C'est-à-dire que le tropisme va vers l'extérieur. Il y a un système centrifuge. On ne va pas vers le centre. Donc, c'est peut-être à avoir une réflexion, ça, avec les habitants eux-mêmes. C'est-à-dire de se poser des questions sur qu'est-ce qu'ils souhaitent réellement. Dans les contacts qu'on a indirects, il y a un vrai sujet de commerce, vous l'avez très bien posé. Il y a un sujet de transport et de mobilité, c'est très bien posé. Il y a un vrai sujet de gestion des élèves, par exemple. Hein. Les gamins qui habitent la solitude pour aller au collège Gaillon, il y en a certains, ça m'a l'air très compliqué. Donc, voilà, vous posez les questions de manière tout à fait logique. Il faut avoir une approche concrète. Ça passe probablement par une fréquence plus grande des bus. Ça passe peut-être par des solutions plus simples, du taxi. Vous voyez, il y a même des communes, par exemple, qui sous-traitent avec Uber pour que des gosses soient emmenés à des heures, etc. Et le coût n'est pas monstrueux. Après, il y a un vrai sujet de commerce dans ces quartiers. Le pain, je dis des choses comme ça, des petites supérettes, des choses qui rendent service au quotidien aux gens qui habitent sur place. Là, je pense qu'il faut discuter, il faut voir ce qu'on pourrait offrir. Voyez, on pourrait rentrer dans des offres associatives, des choses comme ça. Pour l'instant, c'est vraiment, il faut en parler avec les habitants. Parfois, il faut se méfier des situations, des solutions, pardon, qui s'avèrent plus complexes. On a inventé un marché place de Meaux dans Frémarais. Ça n'a pas bien fonctionné. Alors, il y a peut-être eu un problème de communication, de mise en œuvre, j'en sais rien. Mais quand vous interrogez les gens, on leur dit « Mais pourquoi vous n'y alliez pas ?»« On n'était pas au courant. » Enfin, vous voyez, il y a des tas de choses que Dieu est dans les détails, comme vous le savez, hein.
Thierry Tesson, tête de liste pour Douai Capitale. On va parler à présent sécurité, parce que c'est un thème qui s'impose. On n'est pas en sécurité aujourd'hui, à Douai.
Alors, vous savez, hein, moi j'ai été sous-préfet, alors sécurité publique, c'est quelque chose que je connais bien. Alors vous savez qu'il y a les faits de violence, ça, ce sont les choses objectives, hein, on va le dire comme ça, puis après il y a le sentiment d'insécurité. Moi, j'étais frappé dans la balade, ou en tout cas les visites que nous avons faites, par exemple, dans les commerces du centre-ville. Hein. Quand vous avez des dames qui vous disent « Moi, j'ose pas mettre ma voiture à Barlet parce que le soir, quand je quitte mon travail à 19h, il fait nuit, j'ai peur. » Après, quand on parle avec des gens qui vous racontent des anecdotes, je sais pas si on peut dire anecdotes d'ailleurs, vraiment des situations que je trouve absolument intolérables. Il y a un problème d'insécurité dans cette ville. Réel, il y a un problème de sentiment d'insécurité, c'est autre chose. J'ai le sentiment vraiment qu'il faut prendre ce problème à bras le corps. Ce que nous défendons, c'est la tolérance zéro, c'est-à-dire que les gens veulent de l'autorité, ils veulent avoir le sentiment d'être protégés. Je pense que c'est un droit. On doit avoir, quand on est une femme, le droit de se balader dans cette ville à 11h du soir sans avoir l'inquiétude de l'agression, qui peut-être ne se produira pas. Mais moi, le fait que des gens soient dans cette angoisse-là, ça me paraît un sujet.
Quel outil, quel moyen faut-il donc mettre en œuvre ?
Il y en a de toutes. Alors d'abord, évidemment, beaucoup de candidats le feront et le diront, et nous le disons aussi. Il faut recruter un peu plus de policiers municipaux. Ça, c'est une réalité. Après, ce que nous proposons, nous, c'est une maison de la tranquillité publique dans laquelle on aura à la fois des policiers nationaux et à la fois des policiers municipaux pour favoriser un peu plus la complémentarité de ces deux offres, on va dire, de sécurité publique.
Alors là, il y a des négociations à faire avec, évidemment, les directeurs de la sécurité publique. Ça, ça me paraît logique. Mais on peut le proposer. Il y a des communes qui le font très, très bien. Après, il y a un sujet de télésurveillance, soyons clairs. Hein. Je crois que l'obsolescence des caméras dans la ville est connue par tout le monde. On n'est pas sûr, d'ailleurs, du nombre de caméras. J'aimerais bien être certain, moi, de celles qui fonctionnent. Bon, je rentre pas. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il faut remettre tout ça à plat. Il faut surtout disposer d'un centre de surveillance 24-24 pour que les gens aient le sentiment que dans les endroits où il y a des caméras, au moins il y a un œil, on va dire un œil, comment dire, qui veille à ce que tout se passe bien au quotidien. Après, vous savez que c'est très curieux dans cette ville. On a des quartiers en politique de la ville, mais nous n'avons pas de conseil local de prévention de la délinquance, le fameux SLSPD. Alors, Monsieur Chéreau a dit que si, ça existe, mais ça n'a pas le nom du CLSPD. Sauf que, pardon, hein, moi, c'est un truc extrêmement légal, hein, le CLSPD, ça répond à un certain nombre de normes. C'est avec le sous-préfet, les bailleurs, etc. Bah, s'il n'y en a pas, pourquoi ne pas le faire? Donc nous le proposons. Et surtout, ça renvoie à votre question, il faut que ce CLSPD produise un observatoire, justement, de la violence et qu'il soit communiqué aux habitants. Après, la Maison de la Tranquillité publique, ça, c'est. Alors, on l'entend quand on parle avec les Douaisiens toute la journée. On vous dit, il y a un fait, je vais au commissariat, on ne prend pas ma plainte. Je trouve ça étonnant, mais c'est une réalité. Donc, la Maison de la Tranquillité publique, elle reprendra, elle recueillera les plaintes, surtout. Alors, si elles ont été prises par le commissariat, tant mieux, mais on peut très bien doubler et donc que tout le monde soit informé qu'il y a eu une plainte pour tel et tel problème. Et si la plainte n'a pas été prise, eh bien, que l'habitant, la victime, je ne sais pas si on peut dire ça de cette façon-là, mais la victime puisse déposer plainte et qu'elle soit par nous enregistrée.
Radio Scarpe Sensé. Élection municipale Douai 2020. Thierry Tesson, tête de liste Douai Capitale. Interview.
Cette structure, tout comme celle que l'on évoquait en début d'entretien autour de la question du commerce et cette société d'économie mixte que vous souhaitez créer, en 6 ans, c'est faisable de réaliser, de mettre en œuvre et d'actionner de tels outils?
Absolument. Et vous savez, il y a un élément très fort de ma présentation. J'ai 62 ans, je ne ferai pas plus d'un mandat. Vous voyez, c'est simple. Je n'offre pas aux Douaisiens la perspective d'un type qui, jusqu'à 90 ans, si Dieu me prête vie, va enfiler 5 ou 6 mandats. C'est le pire truc qu'on puisse faire à une ville. Pourquoi? Parce que dès l'instant où vous vous dites « je ne fais qu'un mandat », vous avez l'obligation du résultat. Vous voyez, quand vous êtes maire 6 ans, ça doit représenter à peu près 2000 jours. Je pense que vous êtes à même de faire un certain nombre de choses. Moi, quand on me dit « Ah, oh, mais il y a des délais, c'est pas possible », je suis désolé. Moi, je gère un certain nombre de dossiers, j'en ai géré beaucoup, dans toutes sortes de fonctions. Mais le délai, pourquoi il y aurait des délais dans certains cas? Pourquoi, par exemple, si je dis « Tiens, on va faire telle chose », il va y avoir un délai pour simplement poser un principe? Moi, ça me paraît étonnant. Donc, vous voyez, je suis absolument sur l'idée que les Douaisiens, dès la première année de mandat, doivent voir des résultats. Alors n'allons pas imaginer que tout se fait à travers de l'argent. Il y a des choses qui ne coûtent rien ou qui coûtent peu. Je dis toujours, vous savez, hein, il y a un budget dans une commune. Et le budget de la commune, il est pour... alors le chiffre, ça doit être 70 ou 80%. Il est dans les rémunérations des 600 agents de la commune. Ça doit produire une plus-value. Quand on rentre dans une logique qui dit il faut qu'il y a de l'argent en plus que le budget de la commune pour avoir un effet, moi je m'interroge toujours sur l'effet de ce qu'on paye déjà. Et puis après, vous avez des choses qui ne coûtent rien. Vous savez, un CLSPD, les gens qui se réunissent, ils sont déjà rémunérés, hein. Le sous-préfet qui fait partie est payé, le maire il a son indemnité, les bailleurs sociaux ils ont leur salaire, ça coûte zéro, faut le faire.
Donc les charges supplémentaires seraient éventuellement liées à l'embauche de nouveaux policiers municipaux. Et si je reviens toujours sur cette question de sécurité et des policiers, est-ce que demain il faut armer ces policiers selon vous?
Bon, j'ai pas d'idée sur ça. Sincèrement, c'est vraiment quelque chose qu'il faut regarder de manière, comment dire, prudente, hein, et précise. Vous savez, on a le même problème pour la police nationale. Hein, et d'ailleurs, vient de sortir, hein, alors je sais pas si c'est un décret, je crois que c'est un décret, qui autorise les policiers nationaux, la police nationale, hein, à faire du tir quand on est membre d'un club sportif de tir, d'utiliser son arme de service pour s'entraîner, j'allais dire librement. Donc on voit bien que ce sont des questions que même le ministère de l'Intérieur se pose, à juste titre. Après, se pose aussi la question pour la police municipale. Moi, je ne sais pas. Je pense que c'est un débat qu'on doit avoir calmement. Vous savez qu'il y a un vrai sujet sur la maîtrise des armes. Hein, et on est dans un pays où la réglementation est d'une extrêmement stricte. Donc voilà, il faut regarder ça de manière plus précise. J'ajoute, hein, pour revenir... Vous savez, on a des membres de la police municipale qui sont exclusivement chargés de la gestion de la circulation, des PV, etc. Dans la proposition que nous faisons, mais je crois qu'on n'est pas les seuls à le faire, il faut revisiter les missions des policiers municipaux, c'est-à-dire est-ce qu'on est plus sur de l'ordre public, est-ce qu'on est plus sur d'être très présent, par exemple, dans certains quartiers périphériques à des moments de la semaine ou de la journée. Vous voyez, ce sont des questions qu'on doit absolument se poser et il faut vraiment le voir de manière dépassionnée. Il faut essayer de regarder. C'est sûr que si on est une dame chargée de poser les PV dans les rues du centre-ville, c'est pas le même travail que d'aller peut-être dans certains quartiers un peu difficiles à certains moments, d'aller faire respecter l'ordre. Vous voyez, il y a peut-être là des échanges de pratiques avec la police nationale.
Thierry Tesson, la propreté de la ville, ça relève du fait de l'habitant ou c'est quelque chose qui doit être pris en compte et en charge et de quelle façon à ce moment-là par une municipalité?
Alors la ville est sale, hein, ça clairement c'est une question qu'on pose, les gens sont là, les riverains vous diront, moi le premier, hein, moi j'habite dans le centre-ville, hein. Si je vous disais, alors c'est un sujet qu'on a du mal à aborder, il n'est pas très ragoûtant, mais les crottes de chiens. Enfin, c'est quand même un sujet fondamental, je vais dire peut-être de toutes les villes. Hein. Donc ça, c'est une réalité. Donc je pense qu'il y a, comme toujours, deux approches. Il y a l'approche du citoyen, dont effectivement la loi, la règle dit qu'il doit nettoyer ce devant de porte. Hein. Ça, c'est une réalité. Mais il y a aussi le travail des services techniques et de nettoyage des rues. Je pense que c'est réellement insuffisant. Je pense qu'on a un problème de beauté de la ville. On a une ville historique magnifique, avec des bâtiments 18e, vous savez, le fameux règlement de 1718. Toutes les maisons étaient construites comme ça pendant quasiment deux siècles. Il y a une unité architecturale, il y a une beauté. Les gens ne connaissent pas Douai qui viennent, vous disent « Oh, c'est quand même beau !» Et vous voyez, de là où nous nous tenons, quand je vois la rue de la Mairie qui monte, c'est très très beau. Néanmoins, il y a quand même des choses à faire en termes de nettoyage, de propreté. Il y a aussi un problème d'éducation, très certainement. Je pense que ça doit être fait très tôt dans les écoles. Alors moi, je suis un éducateur, hein, donc je pense que ce sont des choses qu'on doit poser. Oui, il faut reprendre ça de manière complète. Ça n'est pas du tout satisfaisant.
Thierry Tesson, tête de liste Douai Capitale, la suite de notre entretien dans le cadre de la campagne pour l'élection municipale à Douai. Et nous parlerons entre autres environnement, écologie, vie associative et place de la ville dans Douaisy Agglo.
Radio, Scarpe Sens.
J'ai bien écouté les infos, j'ai même vérifié dans le dico où c'était le Kurdistan. Peut-être bien qu'il est végétarien, j'ai prévu des filets de colin en plus du poulet au piment. Faut pas que j'hésite à marquer le coup, ça sera maquillage et bijoux, un décolleté le rendra fou. Faut pas non plus que j'en fasse des tonnes, si je suis déguisée en princesse, je suis pas sûre qu'ils me reconnaissent. Je sors le dico une dernière fois, parce qu'il y a un truc que je comprends pas. Réserver les poivrons, déglacer les oignons, débiter les petits pois, ça veut dire quoi, déjà? C'est pratique les placards muraux, j'y ai dissimulé le pêle-mêle, y'a des photos que j'assume pas trop. J'ai même acheté du détachant si jamais il en venait aux mains avec le poulet au piment. J'ai choisi pour le fond sonore un truc qu'il connaît pas encore, les chants d'oiseaux du Périgord. La nappe avec les perroquets, j'avais pas vu qu'elle était ronde parce que ma table elle est carrée. Pour le poulet, pas d'à peu près, je ferai tout comme sur le papier. Ébouriffer l'endive, motiver les olives, torpiller le calva, ça veut dire quoi déjà? Prévoir un vase en cas de bouquet, ne pas le mettre en évidence au cas où il y aurait pas pensé. Éviter les sujets qui fâchent, ne pas se ruer sur les pistaches, dans les toilettes y a du papier. Pour éviter tout incident, le bout de persil entre les dents, dans la cuisine, mettre un miroir. Je mets des bougies sur le dessert, peut-être que c'est son anniversaire, il faut rien laisser au hasard. Je sors le dico une dernière fois, parce qu'il y a un truc que je comprends pas. Étouffer le merlan, le battre jusqu'au sang, rassurer les anchois, ça veut dire quoi, déjà? J'y comprends rien pour le poulet, j'ai suivi tout ce qui était marqué, mais c'est pas comme sur la photo. Si c'est qu'une question d'esthétique, je vais rajouter du basilic, ça sera tout vert, ça va faire beau. Y'a pas de mal à improviser, je fais confiance à mon instinct, je rajoute les filets de Colin. Et si vraiment ça ressemble à rien, je passe le tout au presse-purée, ça peut s'étaler sur du pain. Après le poulet, pas d'à peu près. Quand j'ai mangé, j'ai plein d'idées. Lui proposer un scrap, danser nu sur la table, déglacer Fissa, le flamber au calva. Désosser l'invité, ça se fait pas, je crois. Du persil dans les deux oreilles et l'armagnac sous les aisselles. Du guacamole au cronérin, les olives sur le bout des doigts. Qu'il soit ou non végétarien, moi je suis sûr qu'il aimera ça. Moi je suis sûr qu'il aimera ça. Moi je suis sûr qu'il aimera ça.
Radio Scarpe Sensé, élection municipale Douai 2020. Thierry Tesson, tête de liste, Douai Capitale. Interview.
On va parler environnement, qualité de la vie en centre-ville. Vous évoquiez tout à l'heure votre désir de revoir le plan de circulation pour mettre de la voiture en ville, notamment pour favoriser le commerce, également peut-être une offre touristique, quoique certaines villes ont construit une offre touristique justement en chassant la voiture. Est-ce que c'est pas non plus incompatible, ça, finalement, avec une politique de qualité de vie, de l'air qui est recherchée également dans les centres-villes? Quelles sont vos propositions en termes d'environnement?
Vous savez, pour continuer sur ce que vous venez de dire, vous savez qu'à Paris, la pollution a augmenté en termes de voitures. Il y a tellement de bouchons, ça a été mesuré, hein. Il y a tellement de bouchons parce qu'on a empêché les voitures de rentrer. Alors moi, je suis pas parisien, je l'ai été. Je ne voudrais pas revenir à Paris. Je pense que la vie quotidienne à Paris n'est pas si simple que ça. Mais c'est pas du tout incompatible, hein. Je pense au contraire qu'une voiture qui trouve facilement une place à se garer, elle se pose, elle coupe le moteur et c'est peut-être pas forcément une pollution très importante. Puis après, on est évidemment sur un travail de priorité. On peut très bien dire, on fait le centre-ville, il n'y a plus aucune voiture qui rentre, et après on essaie de voir ce qui se passe. Sauf que nous, l'histoire nous a légué des rues étroites, c'est vrai, l'histoire nous a légué une certaine concentration. Quand vous évoquez certaines villes qui ont éradiqué totalement la voiture, alors c'est un sujet que, évidemment, j'ai travaillé à fond. C'est pas si évident que cela. Il y a un certain nombre de... Il y a des villes, des grosses villes, plus grosses que nous, hein, qui ont rétabli la place de la voiture, et tout le monde s'en félicite. D'autres, à l'inverse, effectivement, ont sorti les voitures du centre, mais c'est pas la même chose. Vous savez, nous, on a une vraie difficulté parce qu'on a atteint un point bas en termes d'attractivité et de fonctionnement commercial. J'ai le sentiment qu'il faut retrouver une densité que nous n'avons pas. Par exemple, la rue piétonne de Belin, comme il manque, aujourd'hui, il y a des lots commerciaux qui sont vides, etc., la densité n'est pas là pour alimenter une voie piétonne comme elle devrait l'être.
Pour en revenir aux questions d'environnement, là, à proprement parler, voilà, sur vos propositions en termes d'environnement pour cette ville et qualité de vie liée à l'environnement, ce qui nous ramène également à la question de la santé et la question de l'alimentation, et notamment dans les cantines.
Tout à fait. Alors, vous avez raison de revenir au centre. Nous, on a un principe très simple. Pas d'écologie punitive et pas d'écologie terrifiante. Vous voyez, c'est un truc très simple. La première, c'est l'écologie, en tout cas l'environnement et les politiques environnementales, elles doivent pas rendre la vie des gens plus complexe et surtout plus onéreuse. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose de simple. Et je vais y venir après avec les circuits courts. Le deuxième élément, ça doit pas être terrifiant. C'est-à-dire, moi, je suis un éducateur. Quand j'ai un établissement que j'inspecte, hein, ça m'est arrivé... et que je vois que des gosses sont dans, ils ont l'idée que demain les Hauts-de-France vont devenir le Sahara. Moi, je m'inquiète parce que là, on n'est plus dans le rationnel. Et quand on n'est pas dans le rationnel, on a du mal à avoir une politique justement qui répond à une obligation à laquelle nous souscrivons tous. Nous devons modifier nos pratiques quotidiennes. Nous devons les modifier pour protéger effectivement l'environnement, ne pas être dans le gâchis, ne pas être dans la pollution, ne pas être dans le dans l'enlaidissement. Vous voyez, quand je prends moi ma voiture pour aller à Paris et que je vois ces éoliennes, ça me rend fou et je me dis qu'on a pris cher, comme on dit dans les Hauts-de-France, avec les éoliennes. Il y a un moment, il faut se poser la question de qu'est-ce qu'on veut faire de ce pays? Est-ce qu'on veut faire des champs d'éoliennes partout qui jamais ne recouvreront les besoins? Et je vous fais grâce du béton qu'on met dans les bases d'éoliennes pour les faire tenir. Mais passons, je n'ouvre pas le débat. Donc, pas de punitif, pas de terrifiant. Néanmoins, bien sûr, il faut mener un certain nombre d'actions. Alors, vous parlez des circuits courts, ça tombe de sens. Et ce que je vous disais tout à l'heure me paraît très bien. Vous noterez que tous les candidats,
tous les candidats ont adopté le principe du circuit court. Tous les candidats proposent dans les cantines d'aller chercher plutôt les denrées dans le territoire proche. On est quand même au cœur d'un terroir agricole inimaginable de richesse. Vous savez, moi, quand j'ai besoin de pommes de terre, je vais à Aubigny, j'achète un sac de 25 kilos, il me coûte 8 euros. D'accord ? Et donc là, vous vous dites, plus la vraie binge, donc c'est extraordinaire. Donc, je pense que ça, on doit le faire effectivement pour les cantines. On peut aller au-delà. Hein. Il y a des établissements de Douai, je trouve ça super bien, qui font tout pour limiter le gâchis de nourriture, le gâchis de pain, le gâchis de plats. Et je pense que vraiment, c'est là, on est dans l'éducatif, hein, et ça me paraît très important. Après, évidemment, tout doit tourner autour de l'économie, c'est-à-dire l'économie de dépenses sur l'isolation des bâtiments. Sur, par exemple, moi, j'ai une idée très précise sur la récupération des eaux de pluie. On pourrait très bien faire un programme dans cette ville pour aider les propriétaires, ou même d'ailleurs les locataires, à alimenter, par exemple, les eaux grises, vous voyez, les toilettes, etc. Ça se fait beaucoup en Belgique. On récupère l'eau. Et c'est pas mal. Et ça permet d'éviter de dépenser de l'eau. L'eau est donnée par le ciel. C'est une merveille. Vous êtes d'accord avec moi, quand même?
Sauf que l'assainissement, donc le traitement de cette eau usée, est facturé sur la consommation de l'eau distribuée. Donc là, on ne paierait plus l'eau que l'on pollue.
Alors, tu vois que j'ai affaire à un spécialiste. Et il y a un sujet, effectivement. Il y a un sujet de fiscalité sur l'eau de pluie qu'on ne va pas esquiver. C'est une réalité. Néanmoins, je pense que c'est mieux de récupérer l'eau de pluie pour alimenter, justement, les eaux grises que d'aller pomper de l'eau qu'on est obligé de filtrer, etc. Enfin, ça tombe sous le sens. Après, vous avez raison, il y a une vraie question de séparation, d'évacuation d'eau. Ça doit pas... Et d'ailleurs, aujourd'hui, on a énormément avancé sur ce sujet-là. Après, un petit truc marrant. Moi, je propose une petite action très concrète et marrante parce que ça renvoie à ce qu'on disait au tout début sur l'histoire de Douai. Douai, la richesse de Douai, c'est faite parce qu'on a augmenté le courant et qu'on a augmenté la hauteur de l'eau. Quand vous regardez le pont des Dominicains, là, juste à l'entrée des eaux, vous avez une écluse automatique. Et donc, vous avez une chute qui n'est pas mince. Hein. Moi, j'ai une barque. J'ai la chance d'être le seul douaisien qui possède une barque et qui peut faire de la barque sur le canal de la ville, d'accord ? Quand je suis avec mon aviron et avec mes mômes sur la barque et que ça chasse, je peux vous assurer qu'il faut tirer sur les avirons pour remonter le courant. Donc on comprend tout de suite que là, vous avez une force, on va dire presque immémoriale. Et là, je propose qu'on mette une petite centrale électrique comme ça s'est fait à Gueulzin. Vous voyez ? On utilise la chute. On met une petite, une rue Pelton, enfin vous devez connaître, je vois votre œil, je pense que vous connaissez ce que c'est, une rue Pelton, on fait des accumulateurs et on peut éclairer la totalité des bords de Scarpe, ça coûte zéro. Sauf évidemment la mise en dépense de la petite micro-centrale hydraulique. Et je trouverais ça très utile pour les gosses de voir comment ça marche.
Radio Scarpe Sensé, élection municipale Douai 2020. Thierry Tesson, tête de liste, Douai, capitale. Interview.
Thierry Tesson, le temps court. Je suis désolé, on va parler quand même, et c'est important ça, de la vie associative douaisienne. Le dynamisme, qu'il soit culturel, sportif, de cette ville, quelles sont, selon vous, ses attentes? Qu'est-ce que vous souhaitez lui proposer?
Alors, la vie associative, vous savez... Il y a très longtemps, j'ai lu un ouvrage qui était très intéressant. C'était par un conseiller de mémoire de la Cour des comptes. Et le titre du livre, c'était « Association lucrative sans but ». Ce titre en lui-même disait toutes sortes de choses. Moi, je considère que, à l'inverse, les associations, c'est extrêmement important dans une ville. Qui peut dire le contraire? L'association, c'est le bénévolat des gens qui donnent leur temps pour les autres. Il n'y a pas mieux. Moi-même, je suis membre d'associations. Je crois qu'il faut les défendre. Alors, il y en a de toute nature. On peut avoir une politique d'association. Je pense qu'elle doit être un peu plus lisible. J'ai le sentiment aujourd'hui qu'à Douai, elle n'est pas très lisible. On ne comprend pas très bien, comment dire... Vous voyez, moi, je suis un gars de l'éducation nationale. Il y a eu tout un travail qui a été fait dans l'éducation nationale pour toutes les associations qu'on appelle complémentaires de l'école. Enfin, bon, vous avez des très anciennes associations. Il y a des conventions qui sont faites pour que, quelque part, ça rencontre l'objet même de ces associations rencontre c'est logique, l'objet même de l'éducation, d'accord ? Et moi, j'aurais l'idée, alors il faudrait évidemment passer par une sorte de recensement, des audits, de rencontrer les associations, peut-être de les rassembler, peut-être de mettre en place une journée des associations, elles sont de toute nature, hein. À Douai, vous avez par exemple des clubs sportifs, il y en a plus de 60, enfin on n'est pas loin de 70, c'est une force de frappe absolument extraordinaire, quand vous prenez le hockey ou le water polo, c'est quand même pas rien, ce sont des associations sportives extraordinaires, qui ont des résultats, toutes sortes de choses. Après, on est dans le culturel, c'est plus complexe. Et comme je vous ai parlé tout à l'heure de la SASA, donc là, on a effectivement de très belles et anciennes associations qui apportent à cette ville vraiment un relief, le relief qu'elle mérite. Donc vous voyez, je dirais quelque part, il faut qu'on ait une sorte de stratégie sur ce que les associations doivent apporter à la ville, vous voyez, dans ce cadre-là. Elles apportent énormément de choses et on doit les aider, c'est-à-dire celles qui apportent, par exemple, en termes éducatifs, en termes de rayonnement. Par exemple, toutes les associations douaisiennes pourraient être, elles le sont déjà, mais je les trouve pas assez des ambassadrices de la ville vers l'extérieur. Vous voyez, il faut vraiment que ça... Parce qu'on n'en a pas parlé, mais peut-être comptiez-vous poser cette question à la fin. Il y a une vraie question d'image de la ville de Douai. Et je pense que les associations, dans ce champ-là, elles sont absolument, adaptées pour ça.
Voilà, oui, on va y venir. Avant tout ça, est-ce que vous avez des projets d'investissement nécessaires déjà? Est-ce qu'il y a besoin d'équipements stratégiques sur cette ville? Est-ce qu'on aura besoin demain, selon vous, d'envisager des investissements assez conséquents?
Bien sûr, tout candidat a dans ses cartons des projets d'investissement pour sa ville. Alors ça, c'est une vraie question. Je pense que c'est au cœur d'ailleurs de notre présentation. Je dis notre, c'est pluriel, c'est pas le nous de majesté. Je me prends pas pour Louis XIV. Mais en l'occurrence, vous voyez, par exemple, il faut des projets structurants pour cette ville. On a parlé tout à l'heure du tourisme. Il faut que ce tourisme soit absolument porté par des projets structurants. Exemple, vous savez qu'il y a des projets qui tournent là autour des Hauts-de-France sur une cité de la bière. Nous sommes dans une cité brassicole. Douai, c'était la ville de la bière. Au Moyen-Âge, c'est le grain, l'orge qu'on vendait place d'armes, qui servait à tous les brasseurs de toute la région. Donc, et je vous fais grâce des brasseries qu'on a connues dans cette ville, notamment le long de la Scarpe. Donc nous proposons, nous, un projet très concret de cité de la bière dans un endroit très précis, c'est la caserne Co. Qui est inhabité depuis à peu près 15 ans, je pense, de mémoire. Et là, on a un lieu parfait. C'est juste à l'entrée de la ville. C'est immense. C'est un lieu historique. Le site est inscrit depuis peu, mais il l'est. Je pense que là, on a un lieu absolument phénoménal pour pouvoir faire une cité de la bière qui serait une sorte de tiers-lieu avec toutes sortes d'offres pour les gens qui pourraient venir à Douai. Après, on a évidemment d'autres investissements. Vous savez, moi, il y a un projet auquel je tiens absolument, c'est de déménager les services de la mairie dans l'ancienne université, c'est-à-dire en fait dans dans l'école supérieure des industries agricoles, qui était auparavant l'université, qui était avant le Mont-de-Piété de Douai. Et là, on a un bâtiment magnifique, très simple, qui est un cube historique, très beau, style Louis XIII, fait par M. Meuron, l'architecte de la ville à l'époque. Et donc là, on pourrait absolument organiser les services de la ville de manière rationnelle, avec un guichet unique dans ce bâtiment, et conserver ce magnifique hôtel de ville comme un espace patrimonial pour toutes sortes de manifestations, mais en tout cas vraiment permettre aux agents de la ville, aux services municipaux de travailler de manière beaucoup plus rationnelle. Après, vous avez compris que l'investissement dans cette ville passe beaucoup par Douaisy Agglo, c'est-à-dire par la communauté d'Agglo. Et donc là, il y a un vrai sujet, évidemment, de coordination avec Douaisy Agglo.
Justement, quelle place dans Douaisy Agglo? Parce que le rayonnement, il est d'abord auprès, ici, des communes proches. Demain, 19 conseillers communautaires viendront des élus douaisiens. Quelle place vous souhaiteriez remplir? Est-ce que vous souhaitez être... Et dans quelle commission souhaiteriez-vous principalement que les élus s'investissent?
Alors évidemment, le développement économique pour Douai, ça me paraît un élément important. Alors, vous savez, nous, on plaide depuis le début de la campagne, d'ailleurs, dans la manière dont notre liste est perçue, c'est vraiment l'idée, alors moi j'emploie cette formule, elle est un peu commode, mais de l'alignement des planètes. Il faut prendre conscience, en tout cas que nous sommes dans une démarche totalement de coordination et de collaboration totalement positive avec la communauté d'agglo, avec le département, avec la région. Comme je le dis souvent, quand Jacques Vernier était maire de Douai, c'était
parce que vous êtes droit. Parce que vous êtes en famille, je me permets de vous couper.
Avec qui?
Avec les gens qui sont en gouvernance dans ces instances?
On est plutôt un peu du même bord. Alors si je disais ça à certains d'entre eux, ils diraient « mais pas du tout, on n'est pas LR ». Enfin bon, en tout cas, ce que je sais, c'est que par exemple, Xavier Bertrand a été élu, il avait en face de lui une liste socialiste, donc j'en déduis que si c'était ses adversaires, il n'est pas socialiste, vous êtes d'accord avec moi. Jacques Vernier, même chose, je crois qu'il avait contre lui des gens qui étaient socialistes quand il se présentait aux élections municipales, mais il avait en face de lui département et région qui étaient d'une obédience différente, on est d'accord. Et quand Frédéric Chéreau, en 2014, a été élu, il se retrouvait en fait avec un département et une région qui n'étaient pas de la même obédience que lui. Là, ce que nous proposons, nous, avec Douai Capital, c'est d'avoir cette sorte de conjonction. Alors, bien évidemment, il y a une obligation de discuter. Et quand je dis que ma liste s'appelle Douai Capital, bien compris que c'est pas indifférent. Je pense que cette ville doit être le moteur du territoire. C'est ce qu'elle a toujours été. Et quand vous parlez avec Christian Poiret, qui est un homme qui a une vision très précise du fonctionnement du territoire, il est parfaitement sur cette longueur d'onde. Christian Poiret, ce qu'il veut, lui, c'est une stratégie claire pour la ville dans la communauté d'agglo. Et ça, je pense que nous sommes capables de l'apporter.
Dernière question. On va anticiper un petit peu. Vous savez ce qui va se passer entre le premier et le deuxième tour. Vous avez déjà étudié différentes stratégies, différentes options.
Alors, vous savez, le juge de paix, là, pour ces élections, ça va être l'électeur du premier tour, évidemment. Vous savez, ce qui caractérise, je pense, cette élection, c'est une certaine incertitude. Moi, je ne suis pas incertain. Je suis sûr que je vais gagner. Parce que je sens, quand je me balade, quand je fais du porte-à-porte, je peux vous le dire, hein, j'ai ouvert de très, très nombreuses portes. Comme diraient les gosses, je ne me suis jamais fait jeter. Jamais. Les gens
écoutent. Et au deuxième tour, vous souhaitez gagner seul ou est-ce que vous pourriez envisager, et si oui, lesquels, de pouvoir intégrer d'autres listes à votre liste?
Alors vous savez, on a installé cette liste en disant ce que je crois, nous étions une alternative, d'accord? Une alternative à quoi? Une alternative, nous ne sommes pas Rassemblement National, d'accord? Nous ne sommes pas Parti Socialiste. Parti communiste vert, nous pourrions l'être, puisque comme je l'ai dit, nous défendons l'environnement. Mais en tout cas, on n'est pas socialiste et nous ne sommes pas du parti gouvernemental, c'est-à-dire de LREM. D'accord ? Donc, je ne sais pas ce qui se fera après le premier tour, mais là, vous voyez, vous avez une indication claire qui est justement notre positionnement dans cette première partie de la campagne municipale.
C'était Thierry Tesson, tête de liste Douai Capital, interview dans le cadre de la campagne pour l'élection municipale à Douai, Hervé Dujardin, pour Radio Scarpe 107.